Voici comment Federico Fellini décrivait son impression de lecture des mémoires du plus célèbre des Vénitiens, Giacomo Casanova. Lire cet annuaire téléphonique, ce bottin des événements, naviguer dans cet océan de pages arides, écrites sans passion et qui met en évidence une rigueur de statisticien pédant, méticuleux, pas même menteur, cela ne m'a procuré que gêne, dégoût, indifférence. Il n'y a rien dans les mémoires de Casanova. Or, c'est précisément cette vacuité que le maestro italien choisit de mettre en scène dans son adaptation du livre « Le Casanova » de Fellini, film qu'il considérait comme l'un de ses plus aboutis. Au lendemain de sa sortie en France, en 1977, Jean Chouquet et Ornella Volta proposaient une plongée dans l'univers du film en donnant la parole à plusieurs acteurs de sa fabrication. Fellini lui-même, d'abord, mais aussi Bernardino Zapponi, son co-scénariste, Daniello Donati, concepteur des décors et costumes, ou encore Roland Topor, embauché pour imaginer l'univers visuel de l'une des scènes clés du chef-d'œuvre. Le Casanova de Fellini, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture, le 3 mars 1977.
En préface à cette émission consacrée au Casanova de Fellini, quelles que soient les discussions, les polémiques, les contestations que va soulever ce film, il faut dire certainement que le Casanova de Fellini, c'est avant tout la magie de la lumière. C'est l'art incomparable de décomposer le spectre solaire. Il faut dire aussi que dans ce film, Fellini se défend d'avoir pris le parti de la dérision d'autrui. En fait, il exorcise ses propres fantômes, ses propres fantasmes. Enfin, avec ce film, s'achève peut-être une époque importante de sa vie. Je le cite, « Après ce film, il faudrait que la part de moi versatile et changeante, la part de moi indécise, éternellement tentée par les compromis, la part de moi qui ne veut pas devenir adulte, il faudrait que cette part de moi enfin meure. »
A posto? A sedere adesso? Ma no, gli ho detto adesso, Gérard, che deve alzarsi quando sente che quello dice un avventuriero di cui santo parlato.
Eh bien oui, c'est la voix de Federico Fellini. Federico Fellini en train de diriger à Cinecittà une séquence de son dernier film Casanova, Casanova que l'on peut voir depuis hier sur les écrans français. Et la première question qu'on peut se poser, alors pourquoi Fellini a-t-il choisi de tourner l'histoire de la vie de Casanova ?
Si on se fie à ce qu'il dit, tout simplement parce qu'il avait signé un contrat pour un film de ce titre.
On peut le croire.
Motore partito.
Scena 88 due prima.
Musica, cacciate musica.
On est la Volta.
Et Jean Chouquet vous présente donc ce soir le Casanova de Fellini, avec la participation de Federico Fellini lui-même et de toute son équipe, le scénariste, le compositeur, l'auteur des décors et des costumes, le maquilleur, les comédiens et le psychanalyste.
Et cela va durer presque aussi longtemps que les films, un peu plus que 2 heures.
Oui, 2h30. Alors essayons, tous ensemble, d'être patients et attentifs. « Cette musique, c'est le leitmotiv du film, c'est l'indicatif de Casanova. Et cette musique, on va l'entendre à chaque fois que Casanova va faire l'amour. Et il va le faire souvent l'amour, dans toute l'Europe. C'est la musique d'un carillon en forme d'oiseau mécanique, un oiseau que Casanova remonte à chaque fois pour mesurer la durée de sa performance amoureuse, on y reviendra. Et ce Casanova de Fellini a fait beaucoup parler de lui, il a fait couler beaucoup d'encre depuis 3 ans au moins, depuis son dernier film, depuis Amarcord. Amarcord, je me souviens. Oui, Amarcord, c'était la tendresse, alors que Casanova, c'est un peu l'indifférence, la solitude et la cruauté. Alors, donc, depuis Amarcord, il y a 3 ans, on n'a pas cessé de parler de Fellini-Casanova, Casanova-Fellini. Alors, il s'est passé énormément de choses. Alors, d'abord, lorsque Fellini a eu signé son contrat, je suppose qu'il connaissait parfaitement les mémoires de Casanova.
Absolument pas. Ce n'est qu'après avoir signé qu'il s'est mis à lire ce livre qu'il n'avait jamais attiré auparavant. Il a été tellement déçu qu'au lieu de tourner les pages, il les déchirait au fur et à mesure.
Il les déchirait rageusement. Alors, j'aurais aimé être témoin de la scène. Donc, alors, colère de Fellini vis-à-vis de Casanova. Alors, je suppose aussi colère des producteurs vis-à-vis de Fellini, c'est naturel.
Oui, parce que vous savez, il n'y a pas eu qu'un producteur dans cette histoire, mais plusieurs. C'était un vrai jeu de massacre. Il y a eu 4 années de travail, 4 années de querelles et de colère. Les scénarios ont été écrits 3 fois, la troupe remaniée 3 fois. Plus de 1000 personnes ont été impliquées dans cette histoire. 90 000 mètres de pellicule ont été tournés.
90 kilomètres, autrement.
Oui, voilà, si vous voulez. Et 9 milliards de livres ont été dépensés.
Combien ?
9 milliards de livres, ça fait à peu près 60 millions de francs lourds. Hein,
ah oui.
Vous voyez bien. Et 8 studios de Cinecittà ont été occupés pratiquement pendant plus d'un an. Venise, l'Allemagne, Londres, Paris ont été presque entièrement reconstitués en studio. Et des dizaines de gondoles ont été fabriquées, des milliers de masques, des dizaines de milliers de bougies. Voilà le bilan de Casanova, qui est peut-être le dernier film colossal de l'histoire du cinéma. Le dernier producteur, d'ailleurs, a dit que devant Fellini, même le souvenir d'Attila pâlissait.
Oui, Fellini, Attila, ça doit faire plaisir à Fellini qu'on le compare à Attila.
Peut-être, vous savez, mais parce que de toute manière, malgré tout cela, d'associer le nom de Fellini à celui de Casanova, c'était le rêve de tout le monde. Enfin, tous les producteurs étaient saisis de raptus, des délires d'autisme financier. Il essayait d'imposer à Fellini tous les sex symboles masculins de l'Amérique des années 70.
Il voulait... Des grandes stars.
Mais oui, il voulait monter des ponts aériens, vous savez, pour décharger Cinecittà une cadence infernale les plus belles femmes du monde entier. Enfin, à mesure que les malentendus grandissaient, l'humeur de Fellini s'assombrissait davantage, vous pouvez bien le croire.
Donc, si je comprends bien l'image du tombeur de femme, du Latin lover, comme on dit, de l'amant latin, ne séduisait absolument pas Fellini.
Mais ce sont plutôt les défauts du personnage qui l'ont frappé en premier lieu.
Oui, bien entendu.
Un jour, il les voyait, vous savez, pompiers, fanfaron, à la manière de Vittorio Gassman. Le lendemain, aussi égaré dans les labyrinthes féminins que peut l'être Mastroianni dans ses mauvais jours. La fois suivante, Ugo Tognazzi, vous savez, la perruque de travers, avant des petits plats, parce qu'il est très gourmet, avant de rejoindre une beauté sous les draps. Oui. Et l'autre, une autre fois, il voyait, dans casa, pour le personnage de Casanova, Alberto Sordi.
En fait, toutes les grandes vedettes italiennes.
Oui, avec un sourire de caïman, comme ça. Un soir qu'il était particulièrement déprimé, Fellini a même songé à confier les rôles des plus célèbres des séducteurs à un clown octogénaire à la retraite, Charlie Rivel.
Le vieux Charlie Rivel, le clown français de 80 ans. Alors là, je crois vraiment que vous exagérez, Ornella, et je crois qu'il faut donner tout de suite la parole à Fellini, que vous allez traduire, et il va nous dire lui-même la relation qu'il a établie avec le personnage de Casanova, le rapport entre le créateur et la créature.
Ma non è quello, a parte il fatto che ogni film, ogni fantasia ha un suo modo di collocarsi verso il proprio creatore.
Chaque film, chaque œuvre se propose l'immagination de son créateur de façon différente et chaque créateur a sa façon de se situer vis-à-vis l'image qu'il veut matérialiser dans un film ou dans un livre ou dans un tableau. D'autre part, le rapport qu'on peut établir avec ses propres idées est le même que celui qu'on entretient avec une personne dont on vient de faire la connaissance. Parfois, ce qui nous pousse vers les autres est un élan, une curiosité profonde, un sentiment de confiance, d'affinité. Parfois, au contraire, des amitiés, des amours naissent d'une antipathie, d'un sentiment de différence, de détachement, d'une véritable aversion.
Questo non, è, non importa l'impatto.
Pour donner corps à un personnage, ce n'est pas du tout nécessaire de se sentir en accord avec lui d'un point de vue idéologique. Tout se passe au niveau de l'expression, c'est là le véritable enjeu.
Fiducioso verso quello che vuoi fare, è lì che devi stare attento.
C'est là le problème.
C'est
là la véritable action drammatique, celle qui a lieu entre le créateur et son œuvre. Si on peut parler d'action drammatique pour la créativité.
Oscurità. Il resto, il personaggio, i personaggi.
Tout le reste, les personnages principaux, les autres personnages, les thèmes, les sentiments du film. Évidemment, au début, je peux dire un tas de choses sur les films que je ne connais pas encore. Ce qui est certain, c'est que pour ces films-là, je suis partie d'un sentiment d'aversion. Mais à présent, je crois que je suis sincère si je dis que cette aversion, cette antipathie, ce dégoût, cette nausée, ces sentiments de tension, de vigilance perpétuelle, étaient les sentiments qu'il me fallait pour pouvoir faire les films. Comme vous voyez, je range toujours les choses à ma façon.
Et oui, Fellini parvient toujours à s'arranger avec les caprices de son imagination, quitte d'ailleurs à faire de la peine aux casanovistes du monde entier. D'ailleurs, il s'en est soucié. Il a dit « Je crains que ce film ne déçoive des spécialistes qui se disputent entre eux sur le nombre d'huîtres que Casanova avala un soir dans un bistrot romain. »
Oui, parce que vous savez qu'il a avoué un jour qu'il voulait faire un fait, une trahison des mémoires de Casanova. Mais vous savez, il y a un mot de Cocteau, « Je suis un mensonge qui dit la vérité », qui convient tout à fait à Fellini. Je crois qu'en fait, il espère que... à la fin, ce soit sa propre vision, sa propre interprétation à prendre les dessus et que les casanovistes du futur finissent même par négliger les épisodes authentiques de mémoire au profit de ceux que lui, Fellini, a inventés.
Bon, alors je crois que pour comprendre l'interprétation, plutôt la réaction passionnée de Fellini, eh bien il faut lire comme ça au hasard quelques lignes des mémoires de Casanova parmi les milliers de pages écrites. Alors voici, je lis, la jeune personne qui m'avait frappé par sa beauté, je lui offre un siège auprès du feu en lui demandant l'honneur de lui tenir compagnie. Elle accepte le siège et la vieille venue avec elle se mit à rire en me disant que j'aurais de la peine à trouver des manières propres à faire jaser sa nièce. Il y a, me dit-elle, qu'un mois qu'elle est sortie du couvent. J'étais depuis quelques minutes auprès d'elle, occupée du seul plaisir de l'admirer, lorsqu'elle me demanda qui était ce beau monsieur qui parlait si drôlement. C'est un seigneur de mon pays qui a quitté sa patrie à cause d'une affaire d'honneur. Je suis fâché de l'avoir conduit ici car, oh, en moins de 24 heures, on me l'a gâté. Madame Lambertini l'a trouvé à son goût. Elle a passé la nuit avec lui et pour marquer la satisfaction qu'il lui a donnée, elle l'a affublé du surnom du comte de six fois. Voilà l'histoire. J'en suis fâché parce que mon ami n'était pas un libertaire.
Oui, il a rencontré beaucoup de femmes, mais en effet, lorsqu'on lit son livre, ce n'est qu'une accumulation confuse des personnages, des situations, derrière lesquelles en fait il n'y a rien. C'est comme si on feuilletait un calendrier à toute allure, en se donnant la sensation du vertige du temps qui fuit. Mais il n'y a pas un seul moment où l'on touche à quelque chose de vrai, d'intense. Jamais il voit les choses en transparence. On n'a jamais l'impression qu'il puisse percevoir avec angoisse et froid, tout simplement avec joie, les mystères de la vie. Il n'y a qu'une énumération effrénée d'événements, car il a toujours vécu de cette façon. Il s'est toujours vu projeté dans un personnage. Il a toujours cru être vraiment ce reflet de lui-même qu'il voyait dans les autres. C'était un acteur dans la vie, un névrosé.
Alors c'est là que le grand débat commence. Casanova, un névrosé, ça va loin. Ça va faire sursauter tous les spécialistes de Casanova, tous ceux qui l'aiment.
Oui, et ceux qui l'admirent, ceux qui pensent, comme les critiques anglais Arthur Simmons, que les mémoires de Casanova sont l'histoire d'une vie unique, d'une personnalité unique, une des plus grandes autobiographies qui existent, ou comme l'a dit Colin Wilson, que ses livres et les catalogues de toutes les fantaisies sexuelles qui ont pu être imaginées par l'humanité, ou un sexologue comme Avelox Ellis qui a dit qu'il n'existe pas au monde des livres plus délicieux.
Bon, je vois que vous avez lu tous les casanovistes du monde.
Oui,
et alors, Stéphane Zweig aussi admirait la désinvolture avec laquelle Casanova se racontait, déboutonné jusqu'au devant du pantalon. Oui, Casanova, c'est la gloire de l'Italie. Alors, qu'est-ce qui a pu pousser l'Italien Fellini à vouloir à tout prix démolir cet Italien? Est-ce que ce héros italien, est-ce que sa réaction donc insolite de première révolte contre le mythe de Casanova depuis 3 siècles, est-ce que cette réaction, cette interprétation, au moins a trouvé une adhésion dans l'entourage de Fellini?
Ah, vous savez qu'il arrive toujours à convaincre tout le monde. Mais il y a quand même un de ses amis qui a pu jouer le rôle de conseiller occulte, qui a pu contribuer à étayer son interprétation. C'est le psychanalyste romain Ignazio Maiore, auteur d'ouvrages remarquables, publié en France aussi d'ailleurs. Vous savez, depuis les Satyricons, Maiore est chargé en quelque sorte par Fellini de faire la psychanalyse de ses personnages au fur et à mesure qu'il les introduit dans ses films.
Alors, écoutons le psychanalyste personnel de Federico Fellini, Ignazio Maiore.
Ce sont les mémoires d'un vecchio.
Ce sont les mémoires d'un vieil homme, humilié, bafoué là, proche de la mort. Ce sont les mémoires d'un vieux qui sait qu'il écrit pour la postérité et qui essaie donc de se présenter à elle sous les meilleurs jours possibles. En s'approchant de la mort et en en ayant conscience, il éprouve comme tout le monde une sorte de honte, un immense regret. Et pour réagir à cela, il cherche de récupérer son passé. Sa façon de se présenter à la postérité, à l'avenir, c'est de retrouver son passé, puisque son présent est minable. Son présent en ce moment est misérable. Et même le passé qu'il essaie de mettre en valeur est au fond misérable, car il est fait de repos, de futilité, d'éphémère. Et ces choses éphémères, toute cette poussière que Casanova soulève en écrivant les mémoires, vient du fait que tout ce qui brillait à ses yeux, tout ce dont il faisait sa gloire, ce n'était au fond que des déchets. Cependant, puisque comme tout le monde, il voudrait être immortel, il arrange son passé pour en faire quelque chose de plus beau, de plus précieux de ce qu'il était en réalité.
Si toute l'équipe de Fellini partage son point de vue, alors je pense que, en particulier, son co-scénariste Bernardino Zapponi est tout à fait d'accord avec lui. Il y a d'ailleurs très longtemps qu'ils travaillent ensemble.
Oui, depuis les Satyricons, il y a eu entre eux une collaboration étroite et ininterrompue, avec la seule exception d'Amacor.
Oui, c'était Tonino Guerra, le scénariste.
Oui, exactement.
Alors vous avez posé à Zapponi cette question définitive.
Est-ce que vous conseillez de lire les mémoires de Casanova avant de voir les films? Et il m'a répondu:
penso che sarebbe nocivo alla comprensione del film.
Je pense que ce serait plutôt nuisible à la compréhension du film.
Non, ce que nous venons d'entendre, ce n'est pas la musique de Nino Rota pour le film de Fellini, mais c'est le final du concerto pour deux mandolines de Vivaldi. Et c'est une sorte d'adieu au Chevalier de Saint-Galt et à ses véritables mémoires, car maintenant on sait vraiment à quoi s'en tenir. Le Casanova de Fellini n'a plus grand-chose à voir avec le Casanova de l'histoire de ma vie, ni même avec le contexte historique dans lequel le célèbre Chevalier de Saint-Galt a évolué. Alors pourtant, Dieu sait s'ils sont nombreux ceux qui considèrent Casanova comme le chroniqueur de génie, le témoin irremplaçable de la vie quotidienne du XVIIIe siècle. Mais ça, Fellini n'en tient aucun compte. Alors écoutons-le, voici ce qu'il répond quand on lui demande ce qu'il pense du XVIIIe siècle tel qu'il a été vu par Casanova.
Moi, je n'ai rien pensé du XVIIIe siècle, parce que je ne pense pas que les livres de Casanova soient un témoignage du XVIIIe siècle. J'ai fait un film sur un personnage, avec lequel je suis parvenu à établir un certain rapport. Et le XVIIIe siècle n'est qu'une sorte de décor que j'ai essayé d'exprimer en fonction de sa psychologie. Je ne me suis donc pas référé à un point de vue historique. Je n'ai pas essayé dans mes décors de refaire la peinture des paysagistes, du Longhi et des autres peintres célèbres qui nous ont laissé un témoignage du XVIIIe siècle. Oui, évidemment, il y a de ça aussi. Je me suis documenté. Mais c'était dans le but d'éviter, d'enlever, de ne pas faire, car cela fait partie de mon métier. Ainsi, quand on me pose la question « Comment vois-tu le XVIIIe siècle ?», je réponds que cela ne me regarde pas, car Casanova a vécu à cette époque, mais il n'en a pas fait vraiment partie. Son histoire pouvait se passer à n'importe quel moment, car c'est un personnage qui n'a aucune attache avec la réalité qui l'entoure. C'est en tout cas ce qui ressort de mon film. C'est quelqu'un qui pratiquement n'a pas vécu. Le XVIIIe siècle n'est ici qu'un décor. Les costumes, l'ameublement n'ont qu'une fonction expressive. Ils ne servent qu'à souligner les situations qui se répètent inlassablement. Casanova glisse entre les choses qui, pour lui, ont une telle matérialité physique qu'il en devient insaisissable. Quelqu'un comme lui ne peut avoir une vision véritable. C'est une vision statique, monotone, qui enlève toute signification, tout rapport avec les choses. C'est un film qui peut faire penser au kaléidoscope. Avez-vous jamais vu un kaléidoscope? Ces jouets que l'on applique à l'œil pour voir des géométries étincelantes, parfois somptueuses, mais dépourvues de toute signification ou bien chargées de significations insaisissables. Il suffit d'une secousse et on a l'impression que les images changent entièrement, tandis qu'il s'agit toujours des mêmes pierres colorées. Voilà, les films d'un point de vue figuratif, comme décor, comme épisode, comme sentiment,
en quelque sorte,
cette macabre séduction la fixité de ces petites pierres colorées qui se composent et décomposent perpétuellement dans un jeu qui pourrait se poursuivre à l'infini. C'est un film qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Il a un début et une fin seulement parce qu'il faut une durée donnée pour un spectacle. La vie du personnage se termine, mais en réalité, elle n'est pas terminée parce qu'elle n'a jamais commencé.
Alors voilà, cette musique maintenant que nous entendons, elle nous plonge vraiment dans l'atmosphère fellinienne, dans ce musée de cire électrisé qu'il a choisi d'animer tout le temps du film. Mais l'image de son héros, son Casanova, ne s'est sans doute pas formée dans son esprit aussi vite qu'il veut bien nous le dire. Son Casanova, c'est sans doute une lente maturation. Et voici les précisions que nous apporte Bernardino Zapponi, le co-scénariste, sur la naissance du personnage imaginaire de Casanova à partir du personnage réel.
C'était un portrait de l'Italien du XVIIIe siècle et même de l'Italien tout court. Un peu aventurier, aimant la politique, un peu tricheur aussi, disons les mots. Petit à petit, nous sommes de plus en plus éloignés de ces personnages trop concrets, trop matériels. Et Fellini est venu voir Casanova comme quelqu'un de plutôt bizarre, un personnage lunaire. Je ne sais pas très bien ce qui en sortira, mais il n'y aura plus rien à voir avec le vrai Casanova. Je parle de l'homme Casanova qui a vécu au XVIIIe siècle. Nous avons voulu donner une idée de Casanova à l'archétype. L'idée de l'Italien voyageur, flâneur, séducteur, car Casanova était un séducteur à tout point de vue. Pas seulement avec les femmes. Même le fait qu'il fabule quelque peu, cela aussi fait partie du personnage. Casanova est l'antivitellone. Et c'est ça qui a attiré et irrité Fellini. Le fait qu'il soit un vitellone à l'état actif, car le véritable vitellone, le jeune homme de province, et velléitaire, statique. Il est certain que Casanova ne devait pas être très agréable. Il voulait toujours attirer l'attention. Il pensait toujours faire mieux que personne. Il était le premier de la classe, le meilleur de tous. Au moins, c'est ce qu'il dit. Peut-être il ne se rend même pas compte d'exagérer. D'une part, il est vieux lorsqu'il écrit son livre. Il fait un peu de confusion entre la réalité et l'imagination, de même que Fellini d'ailleurs. Lorsque Fellini raconte ses souvenirs, on ne sait jamais s'il s'agit de vrais souvenirs ou de souvenirs rêvés.
Aussi Zapponi, comme tout le monde d'ailleurs, a été quelque peu surpris par le choix de Fellini pour son Casanova. Ce choix s'est porté sur un grand Canadien anglais d'1m92, à la voix quelque peu caverneuse, nommé Donald Sutherland.
Action, Donald.
I hear the most degrading of insults was committed against my person. My picture was torn from a copy of my book. An attack here by means of a substance of unspeakable filth. Falkauer was responsible, of course. Oh, I think of his friend, Peter Hall, given the unspeakable name.
Oui, c'est ce grand blond aux yeux bleu-gris, des yeux de nouveau-né, précise Fellini. Un grand blond visage effacé à la physionomie lunaire, qui a été choisi finalement pour incarner le plus célèbre des séducteurs italiens, l'ancêtre de Rudolf Valentino, l'Italien que tout le monde se figure, n'est-ce pas, cher Ornella, avec le regard de velours, sinon les cheveux noirs gominés.
Oui, parce qu'il dit que les visages de Sutherland, ses traits, la disposition de ses yeux, sa palette transparente pouvaient appartenir à un fantôme. Et comme ça, ça l'a aidé à suggérer cette idée d'un être appartenant à une autre époque, à une autre réalité. Il a voulu souligner cela par le maquillage. Il est donc intervenu sur ses visages de façon presque chirurgicale.
Oui, pauvre Sutherland qui n'a pas compris du tout ce qui lui arrivait.
Oui, ce qui d'ailleurs a de si pathétique son regard, la seule chose de lui-même qu'on lui a laissée. Mais vous savez qu'à mesure que le tournage s'achevait, il y eut ce phénomène curieux qu'il supportait de moins en moins bien de retrouver son visage au naturel.
D'ailleurs, il faut dire que le maquillage joue un rôle capital, un rôle déterminant dans les films de Fellini. C'est par le masque que Fellini veut faire ressortir la vérité intérieure d'un personnage et aussi celle de l'interprète. D'ailleurs, les clowns ne disent-ils pas que ce n'est qu'au milieu de la piste, lorsqu'ils sont affreusement grimés, qu'ils sont vraiment eux-mêmes. Et alors, on sait ce que le cirque doit à Fellini ou Fellini au cirque. Et Rino Carboni, le maquilleur préféré de Fellini, nous dit de quelle façon Fellini lui indique de construire ses masques.
Fellini, déjà, il trouve des acteurs qui ont déjà quelque chose dans le visage qui est bien pour le personnage, et il faut faire les aspirations de ça. Il faut faire une étude introspective, introspective, oui, du personnage. Et, pour exemple, s'il y a un acteur ou un visage féminin qui a les yeux petits, il faut faire encore les yeux plus petits. Un visage avec un nez très grand, il faut le faire encore plus grand. Alors, avec le maquillage, il faut connaître tout profondément le métier pour savoir toutes les choses qu'il faut faire pour faire cet engrandissement, cette réduction d'un visage. Moi, je pense que Fellini a demandé de changer le nez et le menton de Casanova. Et il a vu aussi couper les cheveux de Sutherland à la moitié de la tête, c'est-à-dire une fronte très, très, très haute, très intelligente, mais comme si Casanova lui-même, dans la vie, il va se dépiler un peu pour donner l'impression d'être plus intelligent dans toutes les femmes. Non, c'est ça. Je crois qu'il a pensé aussi que Casanova, le vrai Casanova, il va se maquiller beaucoup de fois pour être plus intéressant. Non? Et c'est pour ça qu'il a cherché d'avoir aussi Sutherland un visage, une expression un peu, non dico une espression bloccata, figée, oui. Et naturellement, avec le nez, le menton, un caoutchouc qui sont appliqués sur le visage, et alors automatiquement on va avoir cette expression un peu bloquée, un peu bloquée, figée.
Alors on peut se demander comment Sutherland, devenu cette marionnette, ce pantin, cette sorte d'insecte de crustacé, réagit en face de son démiurge Fellini.
Moi je suis un peu comme un amant de lui. Je suis comme un copain, comme un concubin, comme toutes les choses. Il a tellement de délicatesse, il a tellement de charme, il est incroyable. Et pour faire ce qu'il veut avec moi. Et il m'embrasse tout le temps. Je suis seulement une petite chose dans son fantaisie. Chaque jour, je tends, il ouvre la porte de son fantaisie et moi j'entre et je fais quelque chose. Et je ne connais pas ce que je dois faire demain, je ne connais pas exactement ce que j'ai fait hier.
Je crois qu'il est inutile de commenter cette déclaration d'amour de son Casanova pour Fellini. Les intentions sont annoncées. Casanova Sutherland, 1m92 avec son masque est là. Et le film commence à Venise. C'est la fête. Venise se pare des masques de carnaval. Et pourtant, il n'y a aucune joie dans cette fête. Danilo Donati, l'auteur des décors et des costumes, nous dit son impression.
Comme une aurore aux rayons dispersés, quand tout s'adore et de tout s'adorer.
Le carnaval est toujours funèbre, c'est ce que nous avons visé, pas dans le sens d'un enterrement, mais c'est un fait que lorsqu'on ne peut pas voir le visage des gens qui est caché derrière un autre visage, il est clair qu'on touche à quelque chose. Je me souviens que j'ai vu une fois le carnaval d'un petit village sicilien avec des déguisements faits à la maison, mais il y avait là la clé même du carnaval. Dans Casanova, j'essayais de restituer cette impression insaisissable qui représentait bien le carnaval de toutes les époques.
Si tu as peur, ferme les yeux. Resecavo, ligamia, la gente, tu
surgis, délivre-toi, élève-toi, quoi pour nous pour toi, à Venise pleine.
Au milieu des masques massés sur les ponts, sur un fond de feux d'artifice, de luminaires, de flambeaux, une immense tête féminine couronnée de fer, symbole de Venise, a émergé lentement de l'eau. C'est la naissance de Vénus Venise, rituel que les Vénitiens renouvellent, semble-t-il, tous les ans. Et soudain, des poteaux s'écroulent, les cordes épaisses qui soutiennent la tête se brisent.
Oh, tu t'es fait à toi, vieille concluante, infernale vieillasse, puissante roublarde, effrontée comme femme et brute, le sort nous la donne, marin et commère, comme sœur et grand-mère, vieille.
Mauvais présage, les cordes se sont brisées. La tête géante a sombré dans la lagune. L'angoisse s'est répandue partout. Et alors surgit devant nous un majestueux masque, beaucoup plus grand que les autres, tout enveloppé de voiles blancs. Il fait tomber son loup rouge. Il découvre son visage. Oui, c'est bien lui, c'est Casanova, le Pierrot lunaire que Fellini a imaginé. Il est debout seul à l'extrémité de la pointe de l'île. Il lit une lettre qu'une main inconnue lui a glissée au milieu de la foule. C'est la promesse d'un rendez-vous. C'est le commencement des aventures. Une gondole l'emporte vers une destination inconnue. Voici maintenant Casanova dans un curieux pavillon rempli de miroirs, de peintures érotiques chinoises. Où sommes-nous exactement, Ornella?
C'est le lieu de rendez-vous secret de M.M., Marie-Madeleine, une religieuse libertine que Fellini a décrite dans ses fiches comme sensuelle, ravagée par des envies libidineuses et mystiques, des nobles origines, gourmande, auto-éteur, putain au sourire angélique. Vous savez qu'avant de tourner, Fellini établit une fiche et dessine le portrait de chacun de ses personnages. Mais il a bien précisé en toutes lettres dans son dossier qu'il revendique le droit d'échanger d'avis et de choisir donc des visages qui contredisent en partie ou même tout à fait ses propres descriptions.
En tout cas, pour incarner cette religieuse libertine, il a choisi le visage, le joli visage d'une jeune Eurasienne, Marguerite Clementi. Elle n'avait jamais travaillé avec Fellini, elle était très émue. Avant qu'il ne vous engage, vous êtes rencontrés plusieurs fois, il a beaucoup parlé avec vous ou bien...
Non, jamais, peut-être qu'on s'est rencontrés à un coin de rue la nuit et qu'il m'a regardé d'un coin de l'œil. C'est possible, mais je ne l'ai jamais rencontré avant.
Non, mais une fois qu'il vous a engagé, donc il vous a mieux
observé. Il m'a porté dans ses bras et puis il m'a embrassé, voilà. Il m'a dit, j'ai un rôle pour vous. Et puis, d'abord, j'étais très surprise parce que ça s'est passé vraiment une minute, comme ça. Et puis, bon, j'étais très frustrée parce que je voulais le voir beaucoup plus longtemps. Je suis rentrée dans son bureau, il m'a dit ça. Et puis, c'est tout. Alors après, je suis partie. Mais je suis un peu restée comme ça, un peu étonnée parce que je ne le connaissais pas, en effet.
Et votre personnage, Margaret Clémenti?
C'était un personnage complètement manipulé, je veux dire corporellement comme une marionnette en quelque sorte. Et de là, il fallait sortir une vivacité, une énergie très intense, parce qu'il fallait toujours rire, ce qui est très très difficile, parce que sur les pointes des pieds, toujours rire, les dents serrées, ou tout ça, c'est très dur.
Oui, la première rencontre amoureuse de Casanova à laquelle nous pouvons assister n'est en fait qu'un ballet. Casanova se donne un spectacle dans les 36 positions, les 36 figures de la volupté.
Il y a des exégètes qui disent 32, d'autres 39.
Oui, les auteurs ne sont pas tous d'accord, mais en tout cas, il s'agit bien d'un spectacle. La nonne fait même comprendre à Casanova qu'il y a un spectateur caché quelque part.
Donc Casanova a commencé à remonter son oiseau magique, cet oiseau qu'il emporte toujours avec lui, ce sablier de l'amour qui ponctue son acte sexuel. Oui, le ballet devient de plus en plus rapide, frénétique, et personnellement, je dois dire que j'en apprécie beaucoup l'humour. Ça me fait penser aux exercices au sol des gymnastes aux Jeux Olympiques. Et entre parenthèses, hein, je crois qu'on peut signaler, on est là, que le Casanova de Fellini est le film le plus anti-pornographique, pour ne pas dire anti-érotique, que nous connaissions.
Vous savez qu'il a dit un jour, étant donné la mode actuelle, je prie le public de m'excuser s'il n'y a pas un seul orgasme dans mes films.
D'ailleurs, cette première scène d'amour de Casanova nous donne une idée tout à fait exacte de ce qui nous attend au long du film. Et c'est Bernardino Zapponi, le scénariste, qui nous le confirme.
La structure del film è una struttura molto libera.
La construction du film est très libre, elle ne suit pas une ligne rigoureusement chronologique. C'est une sorte de ballet mécanique, un ballet d'automate. Ce qui est bien dans le style du XVIIIe siècle, des mannequins de cire, des visages qui apparaissent pour disparaître aussitôt. Une impression un peu macabre, comme toujours, les poupées, les crayons, les pantins.
Mais quel était ce mystérieux personnage auquel la nonne faisait allusion?
Le spectateur.
Oui, le spectateur.
Ah oui, c'était l'ambassadeur de France, le cardinal de Bérénice, l'amant en titre de cette religieuse. Il aimait regarder les ébats de sa maîtresse cachés derrière l'œil vitré d'un poisson peint sous une cloison du pavillon chinois. Et Fellini a fait construire la pièce dans laquelle il est supposé se cacher. Il a choisi un comédien pour ses rôles. Il a longuement hésité sur son costume, lui a demandé de dire une série de répliques, car depuis sa cachette, l'ambassadeur se félicite de la technique amoureuse de Casanova, tout en faisant la fine bouche pour quelques détails. Enfin, cependant, dans les films, on ne voit jamais la pièce où l'ambassadeur est supposé se cacher. On ne voit jamais les comédiens qui jouent le rôle de l'ambassadeur. Et tout ce qui reste de lui est l'œil du poisson derrière lequel il est supposé se cacher, Et même sa voix était doublée.
Bon, alors je ne connais pas le nom de ce comédien, mais enfin j'ai l'impression qu'il n'a pas eu beaucoup de chance. Alors devant ce personnage invisible, que nous savons maintenant inexistant, Casanova s'incline, il a montré ce qu'il sait faire dans un certain domaine, alors il juge opportun le moment venu de faire valoir ses mérites scientifiques, littéraires. Il pense même pouvoir profiter de l'occasion pour demander une lettre de protection à cet important personnage. Mais il ne reçoit aucune réponse. La religieuse, en riant, lui jette hâtivement son manteau sur les épaules, lui rend son oiseau. Il ne lui reste plus qu'à se retirer.